Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal.
Et au sommaire de l'édition de 23h, coopération algéro-vietnamienne, le président de la République Abdelmadjid Tebboune réserve au Premier ministre vietnamien Phan Minh Trinh un accueil officiel au siège de la présidence de la République, suivi d'entretiens élargis. Une visite déjà couronnée par la conclusion d'un partenariat stratégique, la signature de 7 accords touchant de nombreux domaines, en plus d'une déclaration d'intention pour un accord commercial préférentiel bilatéral. Réunion de coordination entre le ministre des Hydrocarbures et celui des Travaux publics en prévision de la mise en exploitation du gisement minier de Garage Bilat et de la ligne ferroviaire Béchart Indouf prévue pour début 2026. L'Algérie qui réitère son engagement à partager son expérience dans la lutte contre le terrorisme et à appuyer une réponse régionale à grande échelle. L'Algérie place la lutte contre ce fléau et son financement en tête de ses engagements nationaux et régionaux. Affirmation de notre représentant permanent auprès des Nations Unies, Amar Benjamah. L'Algérie invité d'honneur avec d'autres pays africains au sommet du G20 prévu samedi prochain en Afrique du Sud. La tenue de ce sommet représente une première pour le continent. Nous retrouverons dans cette édition depuis Johannesburg l'envoyé spécial de la Radio Nationale, Samar Hamdi. Et puis au Proche-Orient, l'entité sioniste qui poursuit ses exactions faisant fi de l'adoption par le Conseil de sécurité du plan de paix américain. 27 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des bombardements sionistes ce mercredi, des martyrs également au sud Liban. Il y aura du sport, jeu islamique, de la solidarité en Arabie Saoudite, 4 nouvelles médailles en argent et en bronze récoltées aujourd'hui par les athlètes algériens. Nous reviendrons sur cette dernière rencontre de la 10e journée de Ligue 2 groupe centre-est disputée entre Khmis El Khachna et l'AS Khouloub et qui n'a pas connu de vainqueur, score final, un but partout. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Coopération algéro-vietnamienne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé ce mercredi au Premier ministre vietnamien Phan Minh Trinh et la délégation d'accompagnants un accueil officiel au siège de la présidence de la République. Au cours de cette cérémonie, le président de la République a fait découvrir au Premier ministre vietnamien, dans le hall de la présidence de la République, les dirigeants et présidents de l'Algérie depuis la résistance jusqu'après l'indépendance. Par la suite, les délégations algériennes et vietnamiennes ont eu des entretiens élargis. Et après, au sortir des entretiens et dans une déclaration au nom du Premier ministre vietnamien, son ministre des Affaires étrangères a souligné la volonté des deux pays de hisser les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique. Il a affirmé que l'Algérie est le premier partenaire stratégique du Vietnam en Afrique. Les relations bilatérales ont grandement évolué ces derniers temps. L'Algérie et le Vietnam ont eu un fort potentiel des deux pays à renforcer davantage leur coopération au service des deux peuples ainsi que de la paix et de la stabilité dans les deux régions. Cette visite importante ouvre une nouvelle page et c'est une nouvelle étape dans les relations entre le Vietnam et l'Algérie. Fin de citation. Une visite déjà couronnée par la conclusion d'un partenariat stratégique, un partenariat scellé lors des entretiens entre les premiers ministres des deux pays, des entretiens sanctionnés par la signature de cet accord touchant à de nombreux domaines, en plus d'une déclaration d'intention pour un accord commercial préférentiel bilatéral à Jarmo Saoudi.
L'Algérie et le Vietnam ont franchi aujourd'hui une étape majeure dans leurs relations bilatérales en établissant un partenariat stratégique porté au plus haut niveau par les deux premiers ministres. Dans son allocution, Sifir Riyeb a salué une nouvelle page qui s'ouvre dans la coopération entre les deux pays.
Les accords de partenariat entre nos deux pays vont permettre d'intensifier les consultations politiques et la coordination diplomatique à tous les niveaux, en renforçant la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité. Ils permettront également d'élargir les domaines de coopération économique, commerciale et des investissements.
De son côté, le premier ministre vietnamien Phan Minh Trinh a insisté sur le consensus total entre les deux gouvernements pour élargir la coopération dans tous les domaines, notamment l'économie, les technologies, l'innovation et l'investissement.
Nous sommes convenus d'élever les relations Vietnam-Algérie au rang de partenariat stratégique reflétant une confiance politique accrue à tous les niveaux, d'élargir l'ampleur et le champ de la coopération dans tous les domaines, notamment dans l'économie, l'investissement, la culture, la science, la technologie et l'éducation, la formation. Nous aimerions affirmer que la coopération économique constitue le fondement permettant de développer nos relations en allant en profondeur.
Cette visite a également été marquée par la signature de 7 accords l'issue des travaux de la 13e commission mixte, dont le procès-verbal de coopération algéro-vietnamienne.
Et autres acquis enregistrés, des accords signés lors du forum d'affaires, co-présidé toujours par les premiers ministres algériens et vietnamiens. On citera notamment l'accord conclu entre Sonatrach et le groupe Petro-Vietnam pour l'exploitation pétrolière et gazière Rim Bukhadum.
Les échanges économiques entre l'Algérie et le Vietnam ont atteint les 3,7 milliards de dollars en 2024, un record qui illustre la dynamique des deux pays. Le Premier ministre Sifi Gharib estime toutefois que ce résultat reste modeste et exhorte les opérateurs algériens à profiter de cette dynamique pour booster la production locale.
Les produits algériens présents aujourd'hui sur de nombreux marchés étrangers grâce à leur qualité et à leur prix compétitif. Ils peuvent parfaitement trouver une place sur le marché vietnamien pour répondre à une partie de ses besoins. Cela concerne en particulier les produits agricoles et alimentaires, les appareils électroniques et électroménagers, ainsi que les produits pharmaceutiques. S'y ajoutent les matériaux de construction, le ciment, les produits miniers et les engrais. J'invite les opérateurs économiques algériens à travailler avec leur homologue vietnamien pour exploiter au mieux cet événement.
Une volonté politique claire s'affiche des deux côté, le Premier ministre du Vietnam, Pham Minh Chinh, a souligné l'importance de cette dynamique. Il a réaffirmé le soutien du Vietnam aux grands projets bilatéraux, notamment ceux à forte portée économique.
Nous nous engageons à agir et à agir davantage, chaque jour davantage. Cela veut dire qu'il faut avoir des projets concrets. Il faut avoir des résultats qui sont mesurables. C'est le souhait de nos deux parties.
L'Algérie et le Vietnam semblent vouloir écrire un nouveau chapitre où les synergies remplaceront les simples transactions et où la coopération deviendra un levier de croissance mutuelle, une orientation résolument tournée vers l'avenir.
Pour rappel, les travaux de ce forum se sont déroulés en présence des membres du gouvernement, du directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement API, Omar Karkesh, du président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, et de plus de 200 opérateurs économiques des deux pays. Et toujours dans le cadre de cette visite, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des Transports, Mahmoud Jamaa, a reçu le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, Pham Thi Thuong, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment en ce qui a trait à la coopération policière et à la lutte contre la criminalité organisée. Et puisqu'on parle économie, transition tout à l'heure pour évoquer les grands projets stratégiques, des projets structurants intégrés qui nécessitent le concours de plusieurs secteurs ministériels. C'est le cas pour le projet minier de Garajbilat devant entrer en exploitation au courant du premier trimestre 2026, ainsi que la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf dont la mise en service est prévue également pour janvier prochain. Le ministre des Hydrocarbures et celui des Travaux publics ont tenu ce mercredi une réunion de coordination. Il s'agit d'une nouvelle approche dans le management des grands projets de portée stratégique. Docteur Souhil Abrahou, économiste, enseignant-chercheur en politique publique, elle répond à Halan Saisi.
Suite à l'instruction de M. le Président Abdelmajid Tebboune à ce que le projet de Garajbilat soit boosté en fixant une échéance très proche à travers la réalisation du chemin de fer qui pourra mener jusqu'à la source des minerais, Garajbilat est bien plus qu'une mine, c'est un levier d'industrialisation et aussi de développement local. D'où justement cette réunion de coordination entre les trois secteurs concernés. Donc cette nouvelle forme de management dénote d'une nouvelle stratégie basée sur une obligation de résultat, puisqu'il s'agit ici de délais fixés par le chef de l'État.
Développement et grand projet, le ministre de l'Énergie et des Mines Renouvelables et des Énergies Renouvelables, Mourad Adjel, a annoncé ce mercredi à Ain Oussara, promu wilaya à part entière sur décision du président de la République. Faut-il rappeler que deux tranches du projet de la centrale de production électrique de la wilaya seront opérationnelles en 2026. Cet acquis s'ajoutera à six grandes installations similaires au niveau national. La centrale sera exploitée avec une technologie de haut niveau. Elle atteindra une capacité de 1200 MW à sa réception définitive à l'horizon 2000. 2027. Nous vous disions en titre, l'Algérie a réitéré à New York son engagement à partager son expérience dans la lutte contre le terrorisme et appuyer une réponse régionale à grande échelle, soulignant qu'elle place la lutte contre ce fléau et son financement en tête de ses engagements nationaux et régionaux. Au cours d'un briefing au Conseil de sécurité sur le renforcement de la coopération régionale en matière de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Bedjemaa, a indiqué que la violence au Sahel est aujourd'hui une menace structurelle d'envergure avec des groupes terroristes ayant développé leurs capacités, étendu leurs zones d'action, tissé des liens avec des réseaux criminels internationaux et mis en place des systèmes financiers autonomes basés sur le trafic de stupéfiants et les enlèvements contre des rançons, autant de paramètres qui nécessitent une coordination beaucoup plus accrue dans le domaine de la lutte antiterroriste. Abdelkader Soufi, expert en géostratégie, il répond à Sofia Boukacha.
L'Algérie milite justement de toutes ses forces. Vous avez vu pendant 2 ans au sein du Conseil de sécurité, elle n'a pas cessé de défendre le droit international à travers des questions qui ont été posées. Mais à elle seule, un seul bras ne suffit pas. Il y a aussi l'Afrique du Sud qui joue un rôle qui peut faire aussi quelque chose. Ils ont attendu pendant longtemps le retour de l'Algérie sur la scène internationale. Il a marqué une certaine avancée. Ce travail-là finira par payer. Tant que nous serons, nous aussi, unis autour de cette approche et de ces valeurs de l'Algérie.
D'ailleurs, un chiffre à retenir ce soir, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé que plus de 1900 personnes ont été tuées dans 450 attaques terroristes enregistrées en Afrique de l'Ouest pendant l'année en cours. Nous restons en Afrique. L'Algérie, invitée d'honneur avec d'autres pays africains du sommet du G20 prévu samedi prochain en Afrique du Sud. La tenue de ce sommet représente une première pour le continent, l'occasion de faire entendre la voix de l'Afrique et renforcer son rôle à l'échelle internationale. Depuis Johannesburg, l'envoyé spécial de la radio nationale, Samar Hamadi.
C'est une première en Afrique. Le G20 se tient en Afrique du Sud les 22 et 23 du mois en cours. Ce sommet historique rassemble les principales puissances économiques mondiales et offre au continent africain une opportunité inédite pour mettre en lumière son rôle et ses priorités sur la scène internationale. Les États-Unis ont annoncé leur absence, laissant la présidence symbolique du G20 un siège vide, selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il a également souligné la nécessité de réformer et renforcer les relations commerciales avec Washington. L'Algérie a invité d'honneur aux côtés d'autres pays africains participe activement à ce sommet, perçu comme une opportunité stratégique pour renforcer l'influence africaine et défendre ses intérêts dans les discussions économiques et politiques mondiales. Une analyse partagée par Colère McCuvel, expert sud-africain en finance et participant au G20.
L'Algérie joue un rôle crucial. C'est l'un des plus grands pays d'Afrique. Elle joue un rôle déterminant en termes de capital humain et de technologie. Je sais que sa proximité avec d'autres parties du monde, y compris l'Europe, en fait également un acteur sérieux qui peut contribuer de manière significative et veille à ce que sa proximité avec les grands acteurs mondiaux soit mise à profit. Cela permet de mettre en avant ses atouts et ensuite nous formulons des stratégies sur la manière de résoudre nos problèmes dans notre pays et au bénéfice de l'Afrique.
Cette invitation confirme le rôle croissant de l'Algérie sur la scène régionale et internationale. Samar Hamadi, depuis Johannesburg, pour la radio algérienne.
Et dernière colonie en Afrique, le Sahara occidental, l'organisation CODESA, regroupant les défenseurs sahraouis des droits de l'homme au Sahara occidental, a publié un nouveau rapport documentant les crimes et violations graves commis par l'occupation marocaine contre les civils sahraouis depuis 1975. Les chiffres sont alarmants, avec plus de 300 exécutions extrajudiciaires, plus de 600 victimes de mines ou encore plus de 800 interdictions d'accès aux observateurs étrangers. Plus de détails avec Lies Terrini.
Plus de 38 000 violations graves commises contre les civils sahraouis en 50 ans d'occupation marocaine du Sahara occidental, selon la CODESA. Exécutions, enlèvements, arrestations, usage de drones contre des civils, le Maroc a intensifié la répression ces dernières années après la rupture du cessez-le-feu en 2020, en violation totale du droit international, alors que le Maroc préside le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mohamed Chir, diplomate sahraoui.
C'est une véritable aberration, puisque le Maroc foule au pied le droit international depuis son invasion du Sahara occidental. Le Maroc est condamnable à plus d'un égard. Que l'intensification des violations des droits de l'homme au Sahara horizontale a été fortement dénoncée et documentée par beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme. Une politique permanente de répression de militants sahraouis, elle est la conséquence directe de l'absence d'un mécanisme indépendant de suivi des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés.
Le rapport dénonce également la discrimination systématique, le pillage des ressources naturelles et l'expansion de la colonisation dans les territoires occupés. La CODESA appelle les Nations Unies à accélérer la décolonisation du territoire, à créer un mécanisme de surveillance des droits humains et à révéler le sort des disparus sahraouis.
Direction le Proche-Orient également dans cette édition, l'entité sioniste qui poursuit ses exactions faisant fi de l'adoption par le Conseil de sécurité du plan de paix américain. 27 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des bombardements sionistes ce mercredi. Des martyrs également au sud du Liban, incursion en Cisjordanie selon Alexandre Aoun, spécialiste du Proche-Orient. C'est une manière de faire pression sur les pays voisins et cela en toute impunité. Il répond à Liesse Reini.
L'armée israélienne a mené plusieurs opérations d'envergure, notamment au Liban et en Syrie. En Syrie, c'est des incursions de patrouilles qui vont au-delà des zones déjà occupées. C'est une manière de faire monter un peu les enchères, à savoir terre contre paix. On vous rend les terres qu'on occupe illégalement à condition qu'il y ait une paix qui nous soit favorable, qui avait été le cas avec le Sinaï ou avec la Jordanie. Pour ce qui est du Liban, les opérations s'intensifient, mais elles sont quasi quotidiennes. Hier, ils ont touché le plus gros camp palestinien du Liban, Ain el-Helwe, à peine 50 km de Beyrouth, qui a fait plus de 13 morts. C'est une manière d'intensifier en fait la pression sur le gouvernement libanais.
Et nous restons dans la région. Le groupe A3+ a réaffirmé ce mercredi à New York son engagement à soutenir l'unité et la stabilité de la Syrie, appelant à l'arrêt des opérations militaires sionistes et au retrait de l'entité de tout le territoire syrien dans une allocution prononcée au nom du groupe A3+ lors d'une séance du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Mal Benjema, a souligné l'engagement du groupe à soutenir l'unité et la stabilité de la Syrie. À propos toujours de la Syrie, à retenir ses déclarations pour le chef de l'ONU, la visite de Netanyahou en Syrie est inquiétante. Israël attache une importance immense à sa présence militaire dans la zone tampon en Syrie. Déclaration ce mercredi du Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou lors d'une visite à des soldats sionistes déployés dans cette zone censée être démilitarisée et sous le contrôle de l'ONU. Nous arrivons à la dernière escale de notre édition sport avec nous ce soir Nassima Djaoud. Bonsoir Nassima.
Bonsoir Walid.
Et on commence cette page avec les Jeux islamiques de la solidarité en Arabie Saoudite. 4 nouvelles médailles récoltées aujourd'hui par les athlètes algériens.
D'abord, cette médaille d'argent en para-athlétisme pour Sofiane Hamdi sur le 100 mètres T37. L'athlétisme également, médaille de bronze pour Enis Chout sur le 1500 mètres. En lutte, 2 médailles de bronze. Jamila Ashwar Tikou qui a battu une adversaire du Kyrgyzstan et Fadi Rouabah s'est imposée face à un adversaire saoudien. Et à 2 journées de la fin des compétitions, l'Algérie occupe la 12e place au classement avec 32 médailles, 4 en or, 8 en argent et 20 en bronze.
Football, Nassima, suite de la 12e journée du championnat d'Algérie de Ligue 1. 2 rencontres sont prévues demain jeudi. Parado, Moudia d'Albayad, Moudia d'Oran en tente de Sétif.
Le Moudia d'Oran, actuellement 2e au classement, aura une belle occasion de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 en recevant l'entente de Sétif au stade Miloud Hedfi d'Oran. Le match est prévu à 19h. Le Moudia d'Oran qui reste sur 3 succès de suite, dont le dernier à Ourgla face au Mbeloui 7-3-1, partira largement favori face à une équipe sétifienne qui occupe la 12e place. Les Oranais qui détiennent le meilleur ratio à domicile, 14 points sur 18, devront rester vigilants face à l'entente qui enregistre l'arrivée du technicien serbe Milutin, dont l'objectif est de remettre l'équipe sur rail. Deuxième match au programme demain, Parado Athletic Club Mouloudia d'Albayad à partir de 14h au stade du 20 août 55 d'Alger. Sérieusement menacé par la relégation, Albayad, dernier au classement, est appelé à amorcer sa mission de sauvetage en se déplaçant à Alger face au Parado qui occupe la 13e place, mais qui revient fort, comme en témoignent ses 3 victoires consécutives sur une courbe ascendante. Le Parado espère enchaîner face au Mouloudia d'Albayad en ouverture de cette 12e journée. Hier, lundi, l'espérance de Mostaga PNM et l'USM Alger avaient fait match nul, 2 buts partout. Cette 12e journée va se poursuivre vendredi avec, à partir de 14h45, Arbou qui reçoit l'AS Auchlev. Samedi, une seule rencontre également, USM Khenchla, JS Saoura, 14h, 3 rencontres reportées au 15 janvier 2026. La JSK contre le MBLOUI 7, le CSC qui devrait se déplacer chez le Mouloudia d'Alger Ben Aknoun face au Chabab de Belouizdad.
Et retour également sur la dernière rencontre de la 10e journée de Ligue 2 groupe Centre-Est disputée cet après-midi entre Khmis El-Khachna et la AS Khloub et qui n'a pas connu de vainqueur.
Un but partout entre Khmis El-Khachna et la AS Khloub, donc un match qui s'est joué à huis clos. Deux équipes mal classées qui poursuivent leurs mauvais résultats et donc pour le moment en tout cas la AS Khloub reste à l'avant-dernière place avec 6 points alors que Khmis El-Khachna occupe la 13e place, gagne une seule place avec 7 points et donc je rappelle que cette journée qui avait débuté hier avec la victoire du MOB de Béja et plutôt le match nul entre le MOB de Béja et Tlarma, un but partout, on apprend ce soir que Mustapha Biskri n'est plus l'entraîneur du MOB, il a été nommé entraîneur du Nasr Houssindeï dans ce groupe Centre-Est. C'est Biskra qui est toujours premier avec 24 points après avoir battu hier l'USM Annaba 2 buts à 1 et le Cap Batna est deuxième avec 20 points après son nul hier face à Maghreb, un but partout. Et en troisième place, on retrouve l'Ueshaouia, Tlarma et Djidjel.
Ben merci à vous, Nassima Djaout, pour toutes ces précisions. C'était là la dernière information de cette édition, une édition réalisée par Zin Khawa. Dans quelques instants, les nouvelles du temps avec Leïla Djabour. Très bonne écoute.